Sans plus attendre, je passe la parole à Maëlys. Bonjour Maëlys.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors moi aujourd'hui je vais vous parler un peu sociologie du vote. Je vais pas vous dire en fait si l'électeur FN a le crâne rasé et de jolis tatouages dans le cou, ou regarde le journal de TF1 le soir et a peur des no-go zones, si l'électeur écolo est un vieil hippie libertaire qui colle des stickers stop nucléaire sur le pare-brise de sa Prius, ni si l'électeur de Debout la France se balade le dimanche dans la forêt de Fontainebleau avec un pull cachemire rose noué autour des épaules, en sortant de la messe pendant que ses 7 enfants sont louveteaux chez les scouts. On a tous des idées plus ou moins bien fondées là-dessus et il y a souvent du vrai avec beaucoup de raccourcis. Non, aujourd'hui, on va plutôt faire un petit exercice d'introspection, chers auditeurs, et je vais vous demander, je vais vous poser une question. Donc, à votre avis, pourquoi votez-vous ce que vous votez ? Mathias, Rémi, Pierre, le premier qui me répond « Parce que c'est mes convictions au plus profond de mon âme, et de mes tripes, je crois en l'ordre, la liberté, l'égalité, la patrie, les légumes bio. » Rayez la mention inutile. Je le scalpe sur place, donc un peu de sociologie dans ce monde de brutes, s'il vous plaît. Quelles sont les causes sociales qui vous déterminent ? Que votent vos parents ? Que votent vos voisins d'à côté ? Trouvez-vous que Éric Zemmour a raison ? D'ailleurs, votre mari vous a offert Le Suicide Français, ce livre qui a osé dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Est-ce que vous trouvez que David Pujadas a une aura charismatique au point de vous fier à son sens si fin de l'analyse politique ? Bref, quelles sont les méchantes raisons sociales de votre vote et à quel point vous détermine-t-elles dans cet acte magnifique, républicain, démocratique, qui est l'œuvre d'un citoyen averti, passionné et raisonné, conscient des tenants et des aboutissants de son geste. Bon, alors le premier qui me dit que gna gna gna, on est des purs esprits flottants, raisonnés, responsables, inspirés, gna 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 gna, par des idées, gna gna, je fais un lasso avec le fil du micro et je l'attrape comme un cow-boy et son bison. Il faudra plus en l'air pour longtemps. Petit aparté, je ne cherche à excuser personne, moi la première, n'est-ce pas Manuel Valls ? Expliquer le Volt n'est pas cautionner la ménagère acquise à Marine qui est persuadée du grand remplacement, ni le jeune bobo dynamique qui est bien au chaud dans son quartier gentrifié et qui pense que tout le monde peut s'inscrire dans une AMAP ou aller au travail à trottinette. Bref, ces précautions prises, la sociologie politique est là pour nous éclairer la lanterne. Donc dans l'histoire de la discipline, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu affaire à des successions de modèles explicatifs qui dépendent, là encore, en fait, de conjonctures historiques, culturelles dans lesquelles ils ont été théorisés. Donc c'est un peu jargonnant, mais en gros, ça crée des cadres de pensée du vote, des paradigmes, comme on appelle ça dans le jargon. En gros, ce sont des modèles d'explication à la mode à une certaine époque dans l'histoire des sciences et qui ont expliqué le vote par tel ou tel facteur. Donc là, je vais vous en présenter 4 qui vont peut-être vous aider à vous faire une petite auto-analyse électorale en cette période de pré-élection. Donc, première explication du vote avancé au début du XXe siècle, l'environnement, la géographie, voire la géologie. Donc on doit cette brillante explication à André Siegfried, le fils de Jules Siegfried, oui, le même que la ligne Siegfried,
bien sûr,
qui après avoir essayé de se lancer en politique comme son papa, a lamentablement échoué et a décidé de comprendre en fait les raisons de son échec. Donc en fait, il publie en 1913 le tableau politique de la France de l'Ouest, où il veut saisir en fait les comportements électoraux à partir des cartes géographiques, en prenant en compte la propriété foncière, le mode d'exploitation des sols, la structure de l'habitat et aussi le rôle de l'État et du clergé. Donc sa conclusion est sans appel. Donc là, je cite M. Siegfried. Le granit produit le curé avec la grande propriété et l'orientation conservatrice. Le calcaire produit l'instituteur avec le républicanisme. Voilà, donc je vous conseille pas d'aller fourrer au fond de votre jardin pour savoir si vous appartenez à l'électorat du calcaire ou à l'électorat du granit. Mais son explication, surtout à l'époque où les gens bougeaient peu dans les campagnes, n'est pas si absurde en fait. Parce que derrière les propriétés objectives du sol, on a des modes d'organisation sociale qui vont avec et qui vont différer. Donc le granit, c'est la grande propriété, le métayage et donc les figures sociales du châtelain et du curé. Et à contrario, le calcaire, ça favorise l'essor de la petite propriété, le fermage, l'influence des idées en provenance des villes. Donc on a un paradigme qui est plus trop d'actualité dans notre monde en plein bouleversement, mais je vous laisse réfléchir sur l'implication de la caillasse au fond de votre petit jardin dans votre sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Deuxième paradigme apparu dans les années 50, c'est celui de l'électeur rationnel. Donc là, c'est l'Américain Anthony Downs qui a développé dans une théorie économique de la démocratie en 57. Donc en fait, c'est à l'époque qu'on est persuadé qu'on va pouvoir faire de la vraie science sociale avec des maths, quantifier, mesurer, prédire les comportements, etc. Et donc en fait, Anthony Downs, il va essayer d'expliquer le choix électoral à partir du comportement optimisateur en fait, de l'agent économique qui inspire l'économie. Donc en gros, l'électeur, c'est quelqu'un qui a de la mémoire, qui sait ce qu'il veut pour l'avenir. Il est assimilé à un consommateur qui va faire son petit marché dans les programmes en pondérant les coûts et les avantages du choix de tel ou tel vote. Donc en gros, voilà, il calcule, il est un peu tactique, quoi. Donc bon Juppé, non, Sarko bof, Poisson, oui, mais en même temps, il n'a pas ses chances, donc autant voter utile, bref. On a tous l'impression d'être un électeur stratège quand on met un bulletin dans une enveloppe, mais le fait est que si cette théorie permet de faire de très beaux modèles mathématiques, elle ne marche pas très très bien. Sinon, tous les électeurs étaient fut-fut, comment expliquer le vote suicidaire de ce matin et de nos chers amis américains? Bref, la rationalité comme principal motif du vote, ça berce notre ego, mais ça explique pas grand-chose. Troisième paradigme, je vous suis toujours, ça va, je suis claire?
Très claire.
Bon, ok. Au même moment, dans les années 40-50, donc là c'est un peu mon, enfin je suis sociologue donc c'est un peu mon paradigme préféré, mais bon voilà. Au même moment, dans les années 40-50, le paradigme de l'électeur rationnel va s'opposer à un autre type d'explication en fait, c'est celui de l'explication socio-économique. Donc ça c'est le grand sociologue américain Paul Lazarsfeld qui est son équipe de Columbia qui lance les premiers le pavé dans la mare avec un bouquin qui s'appelle The People's Choice. En 1944. Donc ils soutiennent en fait que le groupe d'appartenance des individus occupe une place importante dans leur vote et ils montrent du coup que le changement de vote est exceptionnel. Donc en gros, ce sont les caractéristiques sociales des électeurs qui jouent. Donc, je cite encore, une personne vote comme elle est socialement. Ah ah, on ne savait pas. Disent-ils. Ils construisent un indice à partir de la religion, l'environnement et le capital économique. Donc globalement, en fait, à leur époque, aux États-Unis, protestants, être protestant riche et ruraux, c'est être conservateur. Et être catholique, pauvre urbain, on est plutôt démocrate, quoi. Donc, il montre... Là aussi, je vous laisse vous faire votre petite analyse, voir, dans votre cas, si vous vous appelez Sigebert au temps court, si vous payez l'ISF, si vous fréquentez l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et si vous avez un château en Vendée, est-ce que cela vous prédispose à voter pour Philippe de Villiers? Je ne sais pas.
Pas d'ISF pour moi.
Pas d'ISF pour toi. Ok, on retient. Donc le dernier paradigme dont je vais vous parler, c'est celui du Michigan. Donc on l'appelle le paradigme du Michigan parce que, bien sûr, il a été développé par les chercheurs de l'Université du Michigan, dans les années 60. Donc en réponse aux deux précédents paradigmes dont je vous ai parlé. Donc dans leur bouquin phare, The American Voter, en 1960 en fait, qui est écrit par Philip Converse et ses copains, ils avancent en fait une explication qui est plutôt psychopolitique du vote, c'est-à-dire que pour eux, en fait, c'est la référence partisane qui va l'emporter sur tout le reste. En gros, en fait, on aurait un vote quasiment de l'ordre du réflexe pour notre parti de prédilection. On aurait un attachement affectif pour tel ou tel parti. Donc on est aux États-Unis à l'époque, donc c'est soit démocrate, soit républicain. Et en fait, ce sentiment d'appartenance, enfin de cette référence partisane, en fait, agirait comme l'appartenance à un groupe de référence. Donc en fait, j'ai toujours voté républicain, je vote républicain. Donc ce modèle en fait présume un attachement du long terme où l'électeur américain moyen est présenté de façon un peu stéréotypée comme apathique, mal informé, et où les changements de comportement ont peu de place. Donc bref, il est un peu teubé et facilement bernable, peu importe le programme du moment en fait, si il y a l'étiquette, il vote. Donc là aussi, je vous laisse juger et vous laisser faire votre propre idée sur ce modèle explicatif en ayant l'esprit aussi les élections de ce matin. Voilà. C'est une simple piste de réflexion qui mérite d'être approfondie parce que le paradigme du Michigan revient un peu à la mode peut-être. Voilà. Donc voilà, bien que ce soit des modèles extrêmes schématiques et qui ont été largement nuancés, contestés, mélangés, etc., ça donne quand même des pistes pour faire sa petite socio-analyse électorale. Et vous, est-ce que Rémi, Pierre et Mathias, est-ce que vous savez le pourquoi de pour qui vous votez?
En partie, oui.
En partie, ouais.
Mes parents.
Ah ouais, j'ai de qui tenir.
Contre tes parents ou comme tes parents?
Comme mes parents.
Comme tes parents, d'accord.
Moi, c'est contre mes parents.
Contre tes parents.
De toute façon, c'est toujours avec les parents.
Mais oui, tout se joue avant 5 ans. C'est pas toi qui l'a dit.
Et toi, Rémi?
Ah non, moi, je
as-tu suis des parents, Rémi?
Le digne héritier de la tradition familiale.
Ah ouais, voilà, c'est bien.
Et toi, Maëlys?
Ben moi, mes parents, ils sont pas tout à fait... Non, globalement, c'est plutôt comme mes parents, on va dire.
D'accord. Ce serait... Eh bien, merci beaucoup, Maëlys. La question reste à savoir si le sol est granitique ou calcaire aux États-Unis.
Je ne sais pas. On va se poser la question. On va aller forer dans le Texas et on va regarder.
Et le gaz de schiste.
Le gaz de schiste, sûrement, ça pourrait avoir une...